Radio Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
À la une, reprise timide du trafic ce dimanche sur l'axe routier Pitso Pimbo en Ituri. C'est après perturbation la journée d'hier. En cause, la milice Codeco a placé des barricades pour se venger contre la tuerie des trois de leurs jeunes. Le gouvernement congolais, d'accord pour le contrôle du mouvement migratoire, c'est pour prévenir la criminalité et toute autre activité subversive. Le président de la République l'a évoqué lors du dernier conseil des ministres vendredi à Kinshasa. Et puis, l'invité de ce midi, Agnès Desbiage, formatrice au sein de l'Institut français de Bukavu. Son institution vient d'organiser une formation en faveur des auteurs, éditeurs, bibliothécaires et libraires. C'est pour renforcer la chaîne du livre et favoriser l'accès aux livres et à la lecture au Sud Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Le trafic a repris timidement ce dimanche matin sur la route nationale numéro 27, axe Pitso-Pimbo. Nous sommes dans la province de l'Ituri. C'est après avoir été perturbé toute la journée d'hier samedi à la suite des barricades érigées par une centaine d'éléments de la Codeco, un groupe armé très actif dans la région. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants se vengeaient contre la tuerie vendredi de trois d'entre leurs jeunes par des miliciens rivales Zaïre à Gbalana, Villa de la chefferie de Baïma Nord dans le territoire de Djougou. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima.
Des centaines d'assaillants armés en provenance de leur bastion de Mbaou sont descendus sur la route nationale numéro 27, précisément au village de Picho Matete en allant vers Pimbo. Ces hommes armés ont barricadé la route empêchant le passage à tout véhicule de transport en commun. Selon des sources sécuritaires, très effrayés, ces miliciens tiraient des coups de feu pour créer la psychose avant de prendre en otage 8 personnes qui étaient sur 3 motos. Ces dernières provenaient de Mungwalu en transportant un cadavre qu'elles amenaient à Mahagi, indique la même source. Ils ont été ramenés dans la forêt des Choro, abandonnant le cadavre dans la brousse. Ce matin de dimanche, des transporteurs affirmaient que les assaillants de la Codeco ont libéré la route grâce à l'intervention de certains chefs coutumiers dans la région. Cependant, le sort de ces personnes en captivité n'est pas encore connu.
Dans le territoire de Lubero au nord Kivu, pendant ce temps, nous apprenons qu'au moins 6 villages du secteur de Bapéré sont vidés de leurs habitants depuis mardi. En cause, la présence des rebelles des EDF dans ces entités situées à une centaine de kilomètres de la ville de Butembo. Le chef du secteur de Bapéré qui alerte demande à l'armée de lancer des opérations militaires de grande envergure contre ces rebelles qui, selon lui, ont investi plusieurs villages. Maker Sivikunuloa, joint par Guylaine Kassassia.
Il confirme le déplacement massif de la population dans la partie nord-ouest du secteur de Bapéré, notamment tous les villages qui font frontière avec le groupement Bakaeku, chefferie Babila Babombi, territoire de Mambasa, province de l'Ituri, se sont vidés donc dans tous les villages de Makumo, Hoho, Hihé, Dubaï, Marocain et Bilulu. C'est suite à la présence d'ADEF dans cette partie là, qui sont en train de commettre vraiment des massacres. C'est donc un nouveau groupe d'ADEF dont on ne connaît pas la trajectoire. Nous alertons les autorités militaires pour que les dispositions soient très vite prises afin d'empêcher la progression de ces bandits ADEF. Nous sommes submergés par un nombre de déplacés, les villages vidés, les champs vidés, alors que nous sommes à la saison de récolte du riz. Il faut qu'il y ait vraiment une solution très urgente pour traquer et anéantir ces nouveaux groupes d'ADEF.
Contacté par Radio Kapi, le porte-parole des FARDC dans le Grand Nord Kivu, le colonel Mac Azukai, dit ne rien savoir de cette situation. Il promet toutefois de se prononcer après vérification auprès des unités qui sont dans la zone. Par ailleurs, le député national Willy Mishiki plaide pour l'incorporation effective des Wazalendo au sein des FARDC, de la police nationale et au sein des services de renseignement pour qu'ils soient soumis à un commandement unique et harmonisé, dit-il. L'élu de Walika Léonore Kivu, de retour des vacances parlementaires, estime que la soumission des Wazalendo à un commandement unique et harmonisé pourrait diminuer les abus de quelques-uns et contribuer au retour de la quiétude dans certaines agglomérations de l'Est. Il a dit dans un point de presse samedi à Kinshasa, Willy Meshiki, élu de Walikale, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous pensons qu'incorporer les ex-Wazalendo dans les FRDC et la PNC, avoir un commandement unique, on ne va plus parler de VDP, on ne va plus parler de RAD, on va parler des FRDC. Et cela va nous éviter les dérapages que nous connaissons aujourd'hui, puisque les Wazalendo ne vont pas se soumettre aux instructions des FRDC ou de la PNC, disant qu'ils ont des commandements autonomes, et alors que lorsqu'ils seront dans l'armée, dans la police nationale, dans les services de renseignement, nous pouvons aujourd'hui avoir un commandement unique et éviter non seulement l'insécurité, mais les abus que nous constatons par-ci par-là qui nous fragilisent sur le plan militaire. L'avantage que les Wazalendo ont, ils sont déjà formés militairement, ils se battent pour conserver la terre de leurs ancêtres et ils ont résisté. Donc, tout ce qu'il faut seulement, c'est leur donner peut-être des cours accélérés, notamment des droits humanitaires internationaux et des droits de l'homme qui doivent être respectés. Puisque aujourd'hui, par exemple, les Wazalendo ne sont pas payés. Ils se font payer eux-mêmes à travers les jetons qu'ils récoltent. J'ai vu à Walikale, par exemple, comme à Massissi, les gens payent 500 francs les jetons, d'autres 2000 francs les jetons.
Je vous le disais en titre, le gouvernement de la RDC est pour le contrôle du mouvement migratoire. Cette question était parmi les points évoqués par le président de la République dans sa communication lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 13 septembre. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, l'objectif visé est de prévenir la criminalité et toute autre activité subversive. D'autres détails avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, propos sélectionnés par Jean Gandou.
Président de la République a de manière spécifique parlé du rôle des bourgmestres, des administrateurs des territoires, des chefs des secteurs et chefferies, des chefs des quartiers, des chefs des groupements et des chefs des villages. Cette tâche s'étend même aux chefs de rue pour mieux situer les résidents. Dans les cas de la territoriale et de l'état civil, ces différents animateurs sont appelés à jouer un rôle déterminant dans l'encadrement de la population en coopérant avec les services appropriés du ministère de l'Intérieur et de la Justice pour identifier correctement leurs administrés en vue de contribuer à aider les services de la police, des migrations, des défenses et des sécurités à veiller au mouvement migratoire et au changement des résidences. C'est là pour contribuer notamment à la prévention contre la criminalité ou toute autre forme de fléau qui s'installe illégalement sur notre territoire pour des activités de déstabilisation de l'ordre établi. Ainsi que cela se passe dans tout état moderne. Tout changement des résidences ou acte lié à l'état civil doit être signalé et enregistré auprès des autorités locales compétentes. Ces mesures ont un impact certain sur la tranquillité sociale et même sur la santé publique.
Notez que le président de la République engage le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, ce en collaboration avec les gouverneurs des provinces, à instruire tous les services étatiques et leurs animateurs des entités territoriales décentralisées et celles déconcentrées sur leurs compétences, de veiller scrupuleusement à l'application sans faille de ces mesures, conformément aux prescrits légaux et réglementaires. Le ministre d'État et ministre de Budget sera aussi associé pour traiter les questions liées à leur budget. Un rapport de la mise en application est attendu en ayant 3 mois. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC décide de poursuivre la grève jusqu'à la convocation des travaux de la politique nationale de rémunération. Des enseignants membres de cette structure ont levé cette option lors de leur assemblée générale extraordinaire tenue hier à Kinshasa. Ces professionnels de la CRE affirment avoir constaté le manque de volonté du gouvernement d'améliorer leurs conditions socio-professionnelles. C'est comme le souligne leur porte-parole Jean Bosco Puna, propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement dans la concrétisation de la promesse faite à Bibwa lors de la commission paritaire, les enseignants réunis à l'Assemblée générale demandent au gouvernement et au Parlement congolais de mettre en application les articles 36 et 58 de la Constitution pour valoriser la fonction enseignante en République démocratique du Congo. En attendant, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo. Sur mandat des enseignants réunis en Assemblée générale extraordinaire, décide de la poursuite de la grève jusqu'à la convocation des travaux sur la politique nationale de rémunération. Invite les parents à garder les enfants à la maison pour leur sécurité jusqu'à la résolution du conflit de travail entre les enseignants et le gouvernement.
Rendons-nous au Kasaï oriental. Plus de 800 propriétaires des parcelles comprises entre les avenues Dodoma et Zaïr au quartier de la Plaine dans la commune de Bipemba sont sommés de déguerpir d'ici un mois pour faciliter la poursuite des travaux de construction de l'aéroport international de Mbujimayi. Cette décision est contenue dans l'arrêté provincial rendu public jeudi 12 septembre. Reportage d'Esther Ndalafina rendu par Étienne Lissumbu.
D'après l'arrêté provincial, les maisons concernées sont celles construites sur l'emprise de l'aéroport en expropriation pour cause d'utilité publique. À travers l'arrêté publié jeudi dernier, le gouvernement provincial remet officiellement à la régie des voies aériennes cet espace pour permettre à l'entreprise All One Builder Construction, qui a gagné le marché, de poursuivre les travaux de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba. D'ailleurs, cette entreprise a menacé de plier bagages étant donné que les travaux débutés depuis 2022 ont subi un retard considérable dans leur exécution suite à la lenteur préjudiciable de la libération des parcelles concernées par l'expropriation. Avant le déguerpissement, le gouvernement provincial a d'ailleurs attribué aux propriétaires des parcelles une concession à Benantumba dans le territoire de Lupatapata. Il demande à cet effet aux services techniques d'urbaniser ces lieux, de prévoir les raccordements en eau, en énergie électrique et d'y implanter un poste de la police pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Signalons qu'une commission est mise en place pour statuer sur certaines réclamations.
Direction la province du Tanganyika. Une dizaine de cas de choléra enregistrés depuis le 10 septembre dernier dans la cité de Kabimba, territoire de Kalemie. Le médecin directeur de l'hôpital de référence de Kabimba déplore la consommation par la population de l'eau non traitée du lac Tanganyika. En outre, la prise en charge des malades au centre de traitement des maladies diarrhéiques à l'hôpital de référence de Kabimba s'est fait difficilement, indique le médecin directeur Dr Elingoy, joint par Paulin Munanga.
Kabimba, c'est une zone côtière où nous vivons les choléras au quotidien, comme nous sommes au bord du lac Tanganyika. Au fait, la population de Kabimba consomme l'eau du lac Tanganyika, qui n'est pas traitée, qui est impropre à la consommation. Et c'est à partir du 10 que les cas ont commencé à venir. Depuis la date du 10 jusqu'aujourd'hui, nous avons réussi 30 cas, dont 20 sont déjà guéris et sont déjà sortis. Actuellement, nous avons 10 cas au 7MD. Depuis la nuit jusqu'à ce matin, nous avons déjà reçu 6 cas. D'autant plus que les cas continuent à venir, nous lançons un cri d'alarme parce que les matériels que nous avons pour les soins médicaux et les médicaments ne s'en suffisent pas. Nous avons réussi 50 litres de sérum Ringer Lactate du bureau central qui sont déjà terminés, et c'est une situation qui nous préoccupe parce que même nos infirmiers travaillent sans gants, sans moyens de protection, et nous manquons presque de tout à part les sérums oraux que nous avons en quantité suffisante.
En Ituri, pendant ce temps, la ville de Bunia connaît une expansion rapide, mais l'accès à l'eau potable reste un défi majeur dans plusieurs quartiers. Faute d'un réseau suffisant, de nombreux habitants se tournent vers les forages, une alternative coûteuse pour beaucoup. Martial Papimoukeba nous amène au cœur de cette lutte quotidienne à Bunia pour chaque goutte d'eau. Voici son reportage.
Nous sommes dans la commune d'Mbunia, où l'accès à l'eau potable est un véritable parcours du combattant pour de nombreux ménages. Beaucoup sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de cette denrée rare, comme en témoigne cette femme.
Nous, ici, on n'a pas de l'eau. Pour trouver de l'eau, c'est difficile. On se déplace même 3 kilomètres pour trouver de l'eau. De l'eau à boire, on peut acheter ça 200 fois. L'autre, ça, c'est 4 par bidon. C'est très difficile.
Dans plusieurs quartiers, certains ménages qui ont les moyens ont choisi de construire des forages à des coûts variant entre 1 500 et 5 000 dollars américains. Ces forages deviennent la principale source d'approvisionnement en eau, comme le témoigne cet habitant de la commune de Nyakasanza.
Comme réseau de forages ici, on avait juste des forêts dans le réseau de sauver les voisins, mais aussi sauver la famille. Vraiment, nous avons l'accès à l'eau potable parce que nous utilisons comme nous voulons. Et maintenant, on est peu stable.
En attendant des solutions durables, les habitants de Bunia s'adaptent à cette solution, espérant des jours meilleurs. Bounia, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale. Une nouvelle tragédie ferroviaire a frappé l'Égypte hier. Deux trains passagers sont entrés en collision dans le delta du Nil, causant la mort d'au moins trois personnes, dont deux enfants. L'accident est survenu dans la ville de Zagazig. Le ministère égyptien de la Santé confirme que l'accident a également fait 40 blessés. Par ailleurs, huit personnes migrantes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation clandestine dans la nuit de samedi à ce dimanche à Ambleteuse, dans le nord de la France. Elles tentaient de traverser la Manche clandestinement vers l'Angleterre. Ce drame survient moins de deux semaines après le pire naufrage de l'année qui avait fait 12 morts le 3 septembre et porté à au moins 37 le nombre des décès dans des telles traversées depuis janvier. Ceci fait de 2024 l'année la plus meurtrière depuis le début du phénomène des bateaux de fortune sur la Manche.
L'invité.
Nous recevons Madame Agnès Desbiages, formatrice au sein de l'Institut français de Bukavu. Elle accompagne les acteurs de la chaîne du livre en Afrique. Son institution a organisé une formation de 5 jours à l'attention des auteurs, éditeurs, bibliothécaires et libraires pour renforcer la chaîne du livre et favoriser l'accès au livre et à la lecture au Sud Kivu. Elle est avec Rachel Kiesé.
Agnès Desbiages, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi cette formation sur la chaîne de livres et la gestion d'une librairie?
L'idée, c'est vraiment à la fois de leur faire prendre conscience de ce qu'est la chaîne du livre, de ce qu'est la librairie et comment peuvent-ils nouer des liens avec la librairie en comprenant mieux son écosystème, mais également de les mettre dans l'action pour générer des projets et des partenariats entre eux.
C'est quoi ce que vous visez en organisant une telle formation, en mettant ces éditeurs, ces libraires, ces auteurs dans cet environnement de la librairie?
Alors l'idée, c'était vraiment de faire découvrir à tout le monde ce qu'est une librairie vue de l'intérieur, de leur faire comprendre ce qu'est l'écosystème de la librairie, aussi bien ses relations avec ses clients, ses relations avec ses fournisseurs, son assortiment, ses stocks, sa relation client. Et là, ça a été extrêmement puissant puisque hier, on a fait une journée de pratique intégralement en librairie et ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de choses qu'ils n'imaginaient pas de la librairie. Pourquoi? Parce que très souvent, dans les contextes africains dans lesquels moi je travaille, la librairie est assimilée à un vendeur de livres. Or, la librairie, c'est beaucoup, beaucoup plus, mais quand on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte.
Les nouvelles technologies, l'Internet, prennent plus d'espace dans nos quotidiens. Quelle place doit occuper la lecture?
Alors, ça, c'est une très grande question, parce que on est tous soumis à cette problématique, même quand on est lecteur. Aujourd'hui, on passe tellement de temps connecté qu'on notre cerveau commence à fonctionner en mode zapping. Donc, les gens, et ça c'est scientifiquement prouvé, ont de plus en plus de mal à se concentrer. C'est pour ça notamment qu'il y a un enjeu énorme à sensibiliser les enfants à la lecture. Et comment est-ce que les parents peuvent sensibiliser les enfants à la lecture? C'est en partageant des moments de lecture avec eux. Et non pas juste en leur donnant un bouquin. C'est en les emmenant dans les bibliothèques, là où on va avoir des livres disponibles très souvent gratuitement. Il faut qu'il y ait du partage, il faut qu'il y ait de la médiation des parents pour que les enfants aient envie de lire. Mais aujourd'hui, le numérique est effectivement une grosse concurrence aux livres. Maintenant, il y a aussi de plus en plus de gens qui commencent à lire sur leur téléphone ou sur leur tablette. C'est une réalité. C'est aussi de la lecture, hein. Ce qui est important dans cet écosystème avec le numérique, c'est de l'intégrer, et je pense à la librairie du coup, qui doit intégrer le numérique dans son plan d'action, de manière à ne pas rester sur le côté de la route et à continuer à être vendeur de livres, mais en numérique.
Les parents doivent initier les enfants à la lecture, les accompagner, mais n'est-ce pas déjà un problème pour les adultes qui ne lisent pas? Une personne qui a des enfants, mais qui ne lit pas, comment initier cela avec ses enfants?
Effectivement, si la personne ne lit pas, déjà elle aura moins de sensibilité à amener son enfant vers la lecture. Mais par contre, le parent aura sa fibre parentale avec l'envie de donner le maximum à son enfant pour sa réussite, son épanouissement, son éducation. On peut se dire que si le parent a envie de donner toutes les chances, il peut faire, entre guillemets, l'effort de partager un moment de lecture de temps en temps avec son enfant, d'un livre qu'il est allé chercher à la bibliothèque, à la librairie ou qu'il avait.
Pendant votre formation avec les libraires, les auteurs, les éditeurs, vous avez aussi évoqué le fait qu'ils doivent être ensemble, apprendre à travailler ensemble. Pourquoi cet accent en particulier ?
Pour moi, c'est fondamental. C'est une des choses que j'essaye d'initier dans toutes mes formations. C'est-à-dire que il y a certes la professionnalisation, mais on travaille en lien les uns avec les autres. C'est bien le principe de la chaîne du livre. Or, pour qu'il y ait ces liens, il faut qu'il y ait déjà qu'on se connaisse, qu'il y ait une forme de confiance, même si elle prend du temps à s'instaurer, qu'il y ait une forme de complicité, et que du coup, on soit beaucoup plus à l'aise pour travailler ensemble. Là, on a un groupe de 20 personnes. Et ben, si moi, j'arrive à mon petit niveau à faire en sorte que quand ils quittent cette salle au bout du cinquième jour, ils n'hésitent plus à se téléphoner les uns les autres pour se parler de projets professionnels, ben, ça sera déjà une réussite. Moi, je fais en sorte de les inciter à initier des projets pendant le temps de la formation, de manière à ce que le premier pas il soit déjà enclenché, en fait.
Je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
Agnès Desbiage, formatrice au sein de l'Institut français de Bukavu, répondait aux questions de Rachel Kessé. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima-Aouta. À la mise en onde, Billy Landry-Bétou. Merci d'avoir été des nôtres.